Le titre du sermon de ce soir est « Tiens bon, il est fidèle ». Ensemble, « Tiens bon, il est fidèle ». Bien sûr, le « il » qui est là pour Dieu. On y va. « Tiens bon, il est fidèle ». On y va encore. « Tiens bon, il est fidèle ». Parce que c'est quand le mari et l'épouse est fidèle, on n'a pas besoin de dire « Tiens bon ». C'est pas vrai, mon frère. Si elle n'est pas fidèle, par contre, on doit dire « Tiens bon, elle est infidèle ». Oui, il est infidèle. Mais là, on dit « Tiens bon ». Il est fidèle. Donc, on va voir pourquoi je dis tiens bon, il est fidèle. Alors, ce soir, pour développer un petit peu cette idée que j'ai, ce que je veux travailler avec vous, nous allons travailler à partir du livre de Jérémie. Alors, je vous envoie dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. On a un petit message très excitant. Donc, nous allons travailler avec Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 5, et si mes souvenirs sont bons, Jérémie chapitre 20. Donc si vous pouvez mettre déjà des petits signets là, et puis nous verrons lorsque nous aurons terminé, peut-être vers Jérémie 38 ou 35. Mais vous mettez déjà Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 5, Jérémie chapitre 20. C'est là que nous irons ce soir. Nous n'irons pas plus loin, vous me connaissez déjà, il n'y a pas de marathon avec moi, on travaille, c'est tout. Maintenant, cette étude est un peu particulière parce qu'elle va toucher deux gros points que nous développerons à partir de maintenant. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un cas de figure. Nous avons plein de gens qui entendent parler du Seigneur, qui veulent faire le pas avec le Seigneur, mais qui ont plein de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils mettent le pied à l'étrier, comme on dit chez moi, à chaque fois qu'ils mettent le pied à l'étrier, arrivent plein de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reculent. Vous connaissez des gens comme ça ? Oui, des fois, nous-mêmes. Nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons faire le pas avec le Seigneur, mais nous pensons à un tas de choses, donc nous reculons. Quelquefois, nous avons même envie de faire le pas ultime, nous avons envie de faire alliance avec le Seigneur, passer par les eaux du baptême et avancer avec le Seigneur. Mais à chaque fois qu'on regarde ce bassin, on se dit, je ne suis pas prêt. Pourquoi ? Parce qu'on sait que derrière cela vient le plus souvent quelques tribulations. Quelquefois, c'est le mari qui n'est pas d'accord. Quelquefois, c'est nous ne sommes pas prêts à lâcher les amis, à lâcher tout ce que nous faisons. Et nous sommes dans des situations, quelquefois, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Maintenant, cette petite histoire que nous verrons ensemble nous montrera deux choses. Nous aurons Dieu d'un côté et nous aurons l'homme de notre côté. Vous voyez, c'est très excitant. C'est vraiment excitant. Lorsqu'on analyse l'homme d'un côté dans son combat, et Dieu de l'autre côté qui, lui, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui fasse confiance. Très intéressant. Maintenant, prenez avec moi le chapitre 1 de Jérémie. La Bible, je vais vous introduire la chose comme d'habitude, comme tous les soirs. La Bible nous dit, parole de Jérémie, donc nous savons que Jérémie est l'auteur du livre, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. Alors laissez-moi dresser le tableau. Anatoth, chers amis, est une ville située au nord de Jérusalem, sur le territoire de Benjamin. Elle est très attribuée aux Lévites. Elle est attribuée à qui ? Aux Lévites. On essaie de comprendre un petit peu la personne de Jérémie. C'est important pour la suite du sermon. Il faut cadrer le personnage. D'accord ? Donc, déjà, on sait qu'il est le fils d'Hilkija et qu'ils ont leurs racines, chers amis, à Anatoth, une ville qui était vouée aux Lévites. Et lorsque nous parlons des Lévites, nous parlons de qui ? Nous parlons des prêtres, ceux qui avaient été mis à part pour le service du Seigneur. Maintenant, allons au verset 4. La Bible nous dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai trouvé ce verset très intéressant. Très intéressant pourquoi ? Parce que j'ai statué sur le nom de Jérémie. Le nom de Jérémie, alors j'ai remarqué dans ma recherche qu'il y avait des avis un petit peu partagés. Et il y en a qui disent que c'est élevé par Dieu. Mais j'aime beaucoup ce élevé par Dieu. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Jérémie veut dire élevé par Dieu. Et hier soir, je vous disais, ou avant-hier soir, je vous disais que lorsque les Juifs choisissaient un prénom à cette époque, en général, ils choisissaient le prénom en fonction d'une situation, n'est-ce pas ? Élevé par Dieu. Mmh. Donc, et on voit que d'autres disent que c'est l'Éternel, mais l'Éternel établit, l'Éternel nomme, l'Éternel envoie. Sommes-nous en phase? Donc, maintenant on essaie de cadrer un peu le personnage. Si on s'arrête au nom du personnage, on comprend qu'on fait face à un personnage qui vient d'une famille qui adore l'Éternel et qui veut servir l'Éternel. Papa est prêtre, donc automatiquement si papa est prêtre, dans cette nation, le fils qui vient derrière est voué à être un prêtre aussi, n'est-ce pas? Sommes-nous en phase? Donc on continue. La Bible nous présente la chose ainsi. La Bible nous dit que Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais mis à part. » Parce que lorsqu'on parle de consécration, on parle de mise à part. Donc je t'avais mis à part. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait établi prophète des nations. Cela nous conduit à voir Jérémie comme étant un prêtre de naissance. Il était de la lignée des prêtres, donc il devait être un prêtre, un homme au service de Dieu, mais aussi un prophète. Donc, analysons la chose. Jérémie était prêtre et prophète. Il avait été consacré par Dieu. Il avait été mis à part pour le service du Seigneur. Donc, et il avait aussi été nommé prophète des nations. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce verset 4. La Bible dit prophète des nations. Alors, lorsqu'on analyse l'histoire des Juifs, en général, à cette époque particulièrement, lorsqu'un prophète était établi, le prophète était établi pour la nation d'Israël. Comme nous en face. Mais là, maintenant, Dieu dit prophète des nations dans son interaction avec Jérémie. Et Jérémie répond au Seigneur, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Donc on comprend que Jérémie est jeune. Parce que, à mon humble avis, si Jérémie était déjà beaucoup plus mûr, il aurait déjà trouvé bizarre que Dieu lui dise « prophète des nations ». Donc une belle conversation aurait démarré ici entre Jérémie et Dieu. « Mais Seigneur, pourquoi tu dis « des nations » ?» Il me semble que ma nation est la nation qui est la lumière du monde. Donc si tu dois envoyer ta lumière, c'est d'abord sur nous. Mais Dieu lui a expliqué un certain nombre de choses qu'on verra tout à l'heure. Et on continue. L'Éternel lui dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Très intéressant. Donc à travers cela, Dieu est en train de dire à Jérémie, je vais te dire ce que tu dois dire. Tu n'iras pas dire ce que toi tu veux dire. Sommes-nous en phase? Tu feras ce que moi je t'ordonne de faire. Nous travaillerons ensemble. Mais tu ne feras pas ce que tu veux. Tu feras ce que moi je te dirai de faire. Sommes-nous en phase? Et c'est là bien souvent que nous avons un petit problème. Hein? Parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Et parce que Dieu veut. Aujourd'hui nous sommes devenus des petits dieux. Puisque nous voulons donner une définition au mot Dieu. La définition que nous avons de Dieu ne nous suffit plus. Maintenant, nous devenons les dieux et Dieu devient le serviteur. Parce que nous faisons ce que nous voulons et nous disons, Dieu est amour. Il va nous pardonner. Il doit nous pardonner. Mais je dois vous dire que ça ne fonctionne pas comme cela. Ça fonctionne exactement comme Dieu le présente à Jérémie. Je vais faire. Je mettrai. Et toi, tu feras ce que moi, je te dis de faire. Sommes-nous en phase, chers amis. Donc on continue. On continue. Là, la conversation devient intéressante. Au verset 8, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, « Ne les crains point, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Moi, à la place de Jérémie, à ce moment-là, j'aurais eu peur. Pourquoi tu me dis, « Ne les crains point » Qu'est-ce qui se passe là, Seigneur? Oula, on va s'asseoir et on va discuter. Tu me dis, tu fais de moi un prophète des nations. Wow. Puisque mon papa, ce n'est qu'un prêtre. Maintenant, quand imaginez Jérémie, le jeune Jérémie qui rentre et qui dit, « Papa, papa, Dieu m'a parlé. » Et dans la discussion que nous avons eue, il m'a établi prophète. Alors, papa, tu sais quoi? Tu dois être fier. Parce que je serai non seulement un prêtre, mais aussi un prophète. Mais en plus d'être un prophète, je serai non seulement un prophète, pardon, d'Israël, mais un prophète des nations. Mais j'imagine le père qui lui dit, mais dis-moi plus. Ah oui, Dieu, il a dit, ne crains point car je serai avec toi. Et j'imagine le père qui tombe par terre. Mon fils, tu ne lui as pas demandé, mais qu'est-ce qu'il entend par ne crains point? Parce que l'élément essentiel est dans le ne crains point. C'est bien, tu travailles avec lui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le nœud crimpant me fait peur. Et s'il était un petit peu plus mature, peut-être qu'il aurait dit à Dieu, hey, « Hé Seigneur, qu'est-ce que tu entends par le nœud crimpant ? Histoire qu'on soit au clair. Puisque je ne veux pas qu'il y ait de... » Comment ils disent ça dans les contrats là, de vices cachés, c'est ça ? C'est ça ? Je ne veux pas qu'il y ait de vices cachés dans cette espèce de contrat moral que nous avons là maintenant. Pas de vices cachés, Seigneur. Alors pour éviter les vices cachés, tu vas me dire ce que tu entends par « Nœud crimpant ». Mais lorsqu'on analyse les Écritures, on voit que Jérémie ne s'attarde pas dessus. Et lui, on dirait que il craint un petit peu, parce que, mais la crainte qu'il a, c'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Il est sur sa personne. Mais Dieu, lorsqu'il dit, ne crains point, pense à autre chose. Mais la plus belle des choses, est qu'il dit, je suis avec toi pour te délivrer. J'ai eu peur. Vous imaginez, votre père vous dit, cher jeune, ma fille va à la boutique en bas, ou on dit boutique hein, chez moi en Martinique, ou bien va dans la supérette en bas, va, tu feras ci, tu feras ça, tu feras ci. Oh, papa m'a choisi aujourd'hui, j'aurai la monnaie, je pourrais acheter un flou. Mais maintenant, la chose est, ne crains point. Ne crains point, mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est juste la supérette, papa. S'il dit ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à craindre là-bas. Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Mais il dit, je serai avec toi pour te délivrer. Maintenant, le mot délivrer ici est très intéressant. Très, très intéressant en hébreu. Parce que le mot hébreu, ici, nous avons un temps spécial. Vous savez, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Nous ne sommes pas là pour faire un cours, nous ne sommes pas au séminaire. En général, lorsqu'on traduit l'hébreu, on fait attention au temps utilisé. Et d'après le temps utilisé, nous pouvons traduire la phrase dans un certain sens. Maintenant, lorsqu'on dit « ne crains point, je suis là pour te délivrer », lorsque j'ai analysé le temps placé ici, dans ma recherche, j'ai découvert que le mieux a été de dire « je serai là pour t'arracher de la main de tes ennemis ». Yep. Le mot « délivrer » ici, le mot hébreu qu'ils utilisent pour « délivrer », peut aussi se traduire par « t'arracher des mains de l'ennemi ». Donc, lui est un hébreu. Il a très bien compris ce que Dieu a dit, mais il est encore jeune. J'imagine l'excitation qu'il a, le Seigneur m'a parlé. Ouh! Mais le « t'arracher des mains de l'ennemi », moi ça m'aurait arrêté. Il peut être encore aussi traduit par « te sauver ». Il peut être encore aussi traduit par « porter secours ». Il peut être encore aussi traduit par « te récupérer ». Donc, Dieu est en train de dire, mon fils, ils t'auront. Vous avez vu Tekken 3 ? Lorsqu'il reçoit le coup de fil, lorsque sa fille l'appelle, l'acteur principal, sa fille l'appelle et lui dit, papa, il y a du monde dans l'appartement. Papa, ils sont en train de faire du mal à ma copine. Papa, ils sont tous là. Le père prend le téléphone et lui dit, ouvre le téléphone, laisse-le ouvert, balance-le en quelque part où je pourrai le retrouver lorsque je viendrai. Je prends mes mots. Mais maintenant, la chose la plus intéressante, c'est que lorsque le père termine, il dit, ils t'auront. Ils vont t'avoir. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire ici. Jérémie, je t'appelle pour une mission. Mais crois-moi, cette mission ne sera pas de tout repos. Parce qu'ils t'auront. Mais je serai là pour quoi ? Pour te délivrer. Donc maintenant, il faut savoir que l'hébreu est un langage très imagé. Maintenant, l'ancien hébreu, ils utilisaient ce qu'on appelle des pictogrammes pour à l'époque, lorsque l'écriture se développait, c'était des pictogrammes et tout ça. Mais analysons ensemble les pictographes du mot qui est utilisé pour te délivrer. Ce mot, c'est Natsal. D'accord ? Le mot est quoi ? Oh, vous parlez hébreu. Ouh. Dites ça encore. Ouh. Nice. Dites ça encore. Donc dorénavant, lorsque vous allez utiliser ce mot, vous direz, je suis en train de citer Wilfried Pavila. D'accord. Ok. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec ce mot. Donc voici comment ce mot se forme. Ce mot se forme comme cela. Bon, hé, ne me jugez pas. D'accord. Voilà. Ici, nous avons en hébreu le mot Natsal. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec ce mot, c'est lorsqu'on analyse les pictographes. Lorsqu'on analyse les pictographes, on va commencer avec le Noun. Comment s'appelle cette lettre ? Encore ? Encore ? Ouh, Sean, tu as des gens qui parlent hébreu dans ton église. Donc, ici, nous avons la lettre Noun. La lettre Noun, lorsqu'on analyse les pictographes, en général, il la représente ainsi. Laissez-moi prendre mon petit papier parce que j'ai pris des notes et je ne veux pas dire n'importe quoi. Alors, il la représente un petit peu ainsi. On a l'impression que, voilà, ça ressemble à quoi? Oh, alléluia. Il a raison. Vous rigolez, il a raison. Parce que on peut le voir comme une graine. Ou encore, on peut le voir aussi comme la vie, chers amis. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Parce que suivez-moi bien. Maintenant, nous avons la deuxième lettre qui est... Cette lettre, c'est... Aidez-moi. C'est Tsadé. Merci. J'allais dire Tsa. Mais c'est pas Tsa, c'est Tsadé. Tsa, ça veut dire prince en hébreu. C'est Tsadé. Mais ce qu'il y a d'intéressant maintenant avec Tsadé, selon, lorsqu'on analyse le pictographe et tout ça, donc selon comment eux, ils travaillaient la chose à l'époque, cela pouvait être traduit par l'homme sur le côté. Sommes-nous en face? Sommes-nous en face? Donc vous avez la première lettre qui vient comme graine, vie. La deuxième lettre qui vient comme l'homme sur le côté. Maintenant, la troisième lettre. La troisième lettre vient et joue son rôle aussi. La troisième lettre, c'est Lamec. Maintenant, cette lettre vient pour la position de leader. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire un travail avec vous. Je vais vous montrer comment ils écrivent Dieu. Dieu, en général, nous avons deux lettres. Nous avons Aleph et nous avons cette fameuse lettre ici qui est Lamed. Donc, lorsqu'ils écrivent Dieu, en général, ils font ça. Oups. Yeah. 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 Et voilà ce que les pictographes nous donnent. Les pictographes nous donnent, ils font quelque chose de comme ceci. Une espèce de tête de bœuf. Il est beau, ma tête de bœuf? Non? Pas vraiment. Et nous avons cette espèce de parapluie renversé. D'accord? Et lorsqu'on analyse ici, en général, le mot ici pour Dieu devient puissant leader. Vous savez, vous reconnaissez le... Ah, je n'ai pas mis pour vous le petit parapluie. Pardonnez-moi. Ce petit parapluie vient ici, puisque nous avons ce dessin ici. Et pour Tsadé, je ne l'ai pas mis non plus. Pour Tsadé, je ne l'ai pas mis non plus. Pour Tsadé, nous avons, laissez-moi le retrouver, puisque j'ai fait le travail dessus. Je l'ai mis où? Tsadé, tu es où? Appelez-le pour moi. Encore. Mais il n'arrive pas. Appelez-le encore. Il part là. Je ne le trouve pas. Oh mon Dieu. On va le retrouver. Sur la page de gauche, j'essaye. Est-ce que Jean-Charles a raison? Jean-Charles a raison. Ok. Nous avons ce petit dessin ici. D'accord? Vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'autre, hein? Mais celui-là, il est couché. Donc, maintenant, lorsque les hommes, les spécialistes ont travaillé sur ça, il y a quelque chose qui vient et qui est intéressant. C'est qu'ils ils vous disent que derrière certains mots hébreux, on peut trouver un espèce de sens. Un sens, je vais mettre entre guillemets, caché. Ok? Maintenant, lorsque j'analyse ça, regardez, je peux former une petite phrase qui veut que, attendez, hein, la vie de l'homme sur le côté du leader. Est-ce que nous sommes en phase? Avec ce simple mot ici, ces trois lettres ici, avec ces trois petites lettres ici, je peux arriver à ce résultat. La vie de l'homme sur le côté du leader. Suivez-moi bien maintenant. Permettez-moi de lousser un petit peu. Lorsque j'analyse ces trois mots, lorsque Dieu a utilisé ce mot, il fallait que ce jeune homme comprenne que Dieu l'appelle à une mission. Mais cette mission ne serait pas facile puisqu'il lui dit « Hé, je serai là pour te délivrer parce qu'ils vont t'avoir. » Mais Dieu dit à travers ce même mot que la vie de l'homme sur le côté du leader est ainsi. Mais à travers ça, il dit que le leader sera toujours là. Pour qui? pour la vie de l'homme qui est sur son côté. Donc, celui qui marche sur le côté de Dieu, sommes-nous en phase? Celui qui marche avec Dieu, Dieu le puissant leader, sera toujours là pour faire quoi? Pour le délivrer. Sommes-nous en phase? Mais pour que ça se passe, chers amis, c'est comme les maths, 2 plus 2 font 4. Pour que ça se passe, pour que Dieu soit toujours là pour nous délivrer, il faut que nous soyons comme ce jeune homme et que nous soyons l'homme qui soit sur le côté du leader, chers amis. Sommes-nous en phase? Donc à partir du moment qu'on ne marche plus avec le leader ne peut plus intervenir pour nous sauver, pour nous arracher de la main de l'ennemi, pour nous récupérer, pour, chers amis, nous permettre de sortir des griffes de l'ennemi, chers amis. Donc Dieu est en train de lui dire à travers ce simple mot, marche avec moi, Jérémie, et tu verras, peu importe ce qu'ils feront, je serai toujours là pour t'arracher de leurs mains. Mais pour ça, nous devons faire quoi? Marcher ensemble. Est-ce que nous sommes en phase? C'est très intéressant pour la suite. Très très intéressant pour la suite. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. La Bible dit, il ne faut pas que je me perde. La Bible dit. Au verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. J'aime bien comment Dieu formule la chose. Mais Dieu commence par faire une chose. Dieu place sa main sur la bouche de celui qui l'a choisi. Donc comprenons bien une chose. Dieu est en train de lui communiquer quelque chose. À travers ce contact, la main de Dieu sur la bouche de celui qui l'a choisi, Dieu lui communique quelque chose. Et cette chose que Dieu lui communique, la Bible nous dit que c'est sa parole. Donc à travers cela, Dieu opère quelque chose à l'intérieur de celui qu'il est en train de toucher, afin que celui qui est en train de toucher, qui marchera à son côté, soit assez fort pour demeurer à son côté, afin que lorsque la chose arrivera, mon ami, qu'il ne soit pas trop faible, attendons que Dieu puisse venir faire quoi là? Secourir, chers amis. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? On dirait que nous ne sommes pas en phase. Ok, donc on continue. On continue. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Nous savons tous que l'amandier, chers amis, c'était l'arbre qui fleurissait le premier. D'accord? Lorsque le printemps arrivait. Donc Dieu est en train de dire à Jérémie, moi, à travers ce symbole fort, je suis prompt à exécuter ma parole. Moi, à travers ce symbole, je suis prompt à faire en sorte que ma parole se réalise. Donc Dieu, dans tout ce discours, est en train de dire à Jérémie une simple chose. Fais-moi confiance. Êtes-vous d'accord avec cela, chers amis? Marche à mes côtés, fais-moi confiance, parce que tu marches avec moi. Ils voudront te piéger, mais fais-moi confiance. Maintenant, pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? Allez avec moi au chapitre 5. Au chapitre 5, nous allons comprendre pourquoi Dieu parle ainsi. Donc, maintenant nous avons Dieu dans sa position de celui qui veut faire quelque chose pour les autres. Et nous avons Jérémie, qui deviendra l'instrument, l'outil entre les mains du Seigneur pour quelque chose. Ce quelque chose est au chapitre 5. Dieu dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent, l'Éternel est vivant. Que dit la Bible? Même quand ils disent, l'Éternel est vivant. Donc on comprend une chose, chers amis. Les hommes vivent leur vie. Et pourtant le nom de l'Éternel est sur leur bouche. Est-ce que ça nous est étranger? Non, chers amis. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des hommes qui tuent au nom de Dieu, chers amis. Donc, on continue. Le Seigneur lui dit, qui pratique la justice et qui s'attache à la vérité. Non, oui. Et je, on va recommencer. Parcourez la rue de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent, l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Wow. Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir, chers amis. Dieu appelle un jeune homme à une mission. Mais à la base même, la mission s'avère difficile. Pourquoi? Parce que la nation même est difficile. La nation n'a pas de problème à confesser le nom de Dieu. Mais maintenant, lorsqu'il faut mettre en pratique ce que Dieu demande, il n'y a plus personne, chers amis. Sommes-nous en phase? Donc nous avons d'un côté Dieu. Dieu, son objectif est que tous nous soyons sauvés. Dieu a pu tourner son dos, puisque vous avez une nation qui confesse son nom. Un peu comme nous aujourd'hui, nous allons à l'église, chers amis. Mais nous sommes réellement des adventistes du septième jour. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous devenons adventistes le septième jour. La semaine, chacun fait ses affaires. Chacun bouge comme il veut. Lorsqu'on regarde la personne, on ne reconnaît pas le chrétien. À la limite même, les collègues de travail sont obligés de dire, mais mon ami, tu n'es pas chrétien. Et des fois même, pour se couvrir, on va jusqu'à dire, ah, toi, tu connais rien. Alors, parce que je suis chrétien, je ne peux pas vivre. Waouh. Et puis, on a honte. Pourquoi? Parce qu'on réalise que le non-chrétien a l'attitude que nous devrions avoir. Il a la façon de parler que nous devrions avoir. Le vocabulaire que nous devrions utiliser. Nous vivons comme lui devait vivre normalement. Nous mangeons comme lui devrait manger normalement. Parce qu'aujourd'hui, eux acceptent toutes les réformes alimentaires qu'on leur propose. Mais nous, maintenant, nous voulons adopter leur façon de manger. Donc maintenant, regardez-moi, on fait ce qu'eux devraient faire, eux font ce que nous devrions faire, chers amis. Sommes-nous en phase? Donc il y a un problème à quelque part. Et voici dans quoi Jérémie se trouve, chers amis. Donc lorsque Dieu lui dit, à travers le chapitre 1, que ce sera dur, mais reste à mes côtés, Dieu sait de quoi il parle. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir que Dieu aurait pu tourner son dos à ces gens-là. Il aurait pu arrêter de parler à ces gens-là. Regardez la fin du verset 5. À la fin du verset 5, il dit, « Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens, chers amis. » Vous savez, c'est quoi un joug? Le joug, on peut l'expliquer de deux façons. Lorsqu'on regarde le joug, c'est une espèce de barre qui tenait les deux bœufs, et les bœufs, ça leur permettait de synchroniser leurs actions. Ça leur permettait de synchroniser leurs actions. Dans nos explications, nous avons l'habitude d'entendre ça. Mais je vais ajouter quelque chose ce soir. Ça leur permettait de synchroniser leurs actions afin de tirer ce qu'ils avaient à tirer. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Et c'est lorsqu'ils tiraient la chose que la terre était labourée. Sommes-nous en phase? Donc, Dieu, lorsqu'il dit « ils ont brisé le joug », Dieu est en train de dire que « ils se sont dissociés ». Ils ont décidé de ne plus faire un avec moi. Parce que Dieu, lorsqu'il dit de prendre mon joug, il est en train de dire, toi, tu vas venir et tu vas travailler avec moi. Tu seras où? À mes côtés. Parce que les bœufs, il faut qu'ils soient l'un à côté de l'autre pour travailler ensemble. Donc, tu seras à mes côtés. Maintenant, je vais placer le joug. Et tu sais quoi, mon ami? Nous allons avancer ensemble. Donc, Dieu va descendre à notre niveau pour avancer avec nous, chers amis. Et lorsque nous sommes fatigués, parce qu'il y a cette barre qui nous tient et qui nous lie, lorsque Dieu fera un pas, nous aussi nous ferons un pas. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase, chers amis? Sommes-nous en phase, chers amis? Donc, le travail que nous avons à faire devient beaucoup plus léger, puisque notre responsabilité, et non seulement, parce qu'il y a la deuxième façon de voir ce joug, parce que nous entendons, ils sont sous le joug romain. Donc, cela implique qu'il y a une domination quelque part. Donc Dieu invite les hommes à rester sous sa domination, à devenir ses esclaves, à marcher avec lui, chers amis. Mais il dit que ce joug est léger. Pourquoi? Parce qu'il en prend toute la responsabilité. Sommes-nous en face, chers amis? Et il nous invite, chers amis, à venir à côté de lui, exactement comme il le dit à Jérémie, et à lui faire confiance, à garder les yeux sur lui, et à avancer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il faut labourer le champ. Donc, lorsque les deux animaux avancent ensemble, le champ, chers amis, la terre est travaillée. Mais si les animaux n'avancent pas, la terre n'est pas travaillée. Donc, lorsque Dieu dit, venez sous mon joug et je vous donnerai du repos, c'est pas pour qu'on dorme, mais c'est pour qu'on travaille. Le repos qu'il va nous donner réside dans autre chose que nous verrons après. Mais maintenant, lorsque Dieu invite Jérémie à venir sous son joug, il dit à Jérémie, à côté de moi, là, travaillons ensemble, Jérémie. Il n'y aura pas de problème. Nous pourrons tirer ensemble cette charrue. Nous pourrons tirer ensemble cette machine qui éclate la terre et qui fait que nous pourrons planter après, Jérémie. Sommes-nous en face? Il est en train de dire que ce peuple-là, ces hommes-là, la lumière du monde, ils ont brisé le joug. Donc, ils se sont dissociés à Dieu. Mais vous savez quelque chose? J'aime Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Dieu aime les hommes tellement que malgré le fait qu'ils aient pris cette décision, Dieu dit à Jérémie, je sais que ce sera difficile. La preuve, descend dans la ville et tu verras, pas un seul ne va t'écouter. Pas un seul ne va se convertir. Mais il envoie Jérémie quand même. Mais il envoie Jérémie quand même. Chers amis, quel amour. Donc à travers cette petite histoire ici, on voit à quel point Dieu nous aime. Dieu sait qu'on a fait notre choix, mais il vient quand même. Dieu sait qu'on a pris la décision, c'est bon ces histoires, mais il vient quand même. Et au milieu de ça, son outil souffre. Ça devient une espèce de souffre-douleur, car Jérémie est au milieu de ça, et c'est lui l'outil, chers amis. Et il souffre. Permettez-moi de faire un point maintenant sur la personne de Jérémie. Allons au chapitre 20. Allons au chapitre 20, verset 7. Voilà ce que dit Jérémie. C'est pour vous montrer à quel point c'était chaud. Permettez-moi de faire un point ici. Je vous prie, je vous demande votre attention. Souvent, nous vivons des situations difficiles. Et nous disons, Dieu, pourquoi? Beaucoup de gens refusent de faire le pas avec le Seigneur. Parce que pour eux, ils vont rentrer dans le ne pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et à cause de cela, je me rappelle un jour, j'avais une conversation avec mon frère qui vient d'Espagne, et je lui ai dit, il m'a posé des questions. Wilfried, pourquoi tu as fait ce choix? Alors je lui explique, nous parlons. Mais tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Pourquoi tu as abandonné ci? Pourquoi tu as abandonné ça? Pourquoi tu as remis ci? Vous allez comprendre lorsque je vais vous parler de mon expérience demain soir. Pourquoi tu as abandonné ci? Pourquoi tu as abandonné ça? Tu avais une belle villa, tu avais ceci, tu avais cela. Mais pourquoi tu as abandonné ces choses? Mais regarde dans quelle situation tu es. Et je lui ai dit, mon frère, j'ai choisi de marcher avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu est inimitié avec le péché. On ne peut pas dire qu'on marche avec Dieu et garder dans la poche quelque chose qui ne lui appartient pas. Je sais que je n'aurai pas de amen pour celui-là. Et je vais le répéter quand même. On ne peut pas marcher avec Dieu et garder dans la poche quelque chose qui ne lui appartient pas. Nous devons accepter de devenir comme Jérémie. S'abandonner au Seigneur. Nous devons accepter le message que Dieu a pour nous dans ce livre de Jérémie. Lorsqu'il dit, marche à mes côtés. Je serai là pour toi, pour t'arracher de leurs mains. Mais reste avec moi. Marche à mes côtés. Parce qu'à partir du moment qu'on sort de ce système bien établi, chers amis, on devient un ennemi de ce système. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, mon père prenait un malin plaisir à chaque fois qu'il buvait un coup avec ses amis, à venir devant moi avec sa bouteille de rhum et à me dire, Wilfried, qu'est-ce qu'on fait? Et à moi de lui dire à chaque fois, papa, je ne bois pas ça. Et à lui de se moquer de moi avec ses amis, chers amis. Laissez-moi vous dire une chose. Si à l'époque, vous étiez moqué de moi, vous étiez mal, je vous le dis, venez demain soir et vous comprendrez pourquoi. Vous étiez mal. Comme m'a dit un ami un jour, pas de café la fête. Hein. J'ai dû accepter ces moqueries parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et quelquefois, vous voyez ces moqueries, c'est ce qui freine plus d'un. D'autres fois, ça m'a amusé de voir que, et là ça va faire sourire quelqu'un, de voir que des hommes vont dans des restaurants ensemble, et là ça ressemble à la vie parisienne, hein. Vont dans des restaurants très tard le soir, ils mangent sur les différentes places, c'est beau, n'est-ce pas pasteur? C'est beau, les voitures qui passent, les hommes qui s'amusent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Observez les chrétiens lorsqu'ils vont s'asseoir dans ces restaurants et que le repas arrive sur la table. Ils ont un gêne parce qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut bénir ce repas. Et je me rappelle, avant de vous donner celui de la Martinique, je vais vous donner un d'ici. Je me rappelle, je discutais avec un homme et il m'a dit qu'il a été choqué une fois parce qu'il a été au restaurant avec des amis manger et il leur a dit, mes amis, nous allons prier. Et puis l'autre lui a dit, mais j'ai déjà prié. Il lui a dit, mais à quel moment? Il a dit, oui, lorsque j'ai fait ça. Est-ce que vous me suivez, chers amis? Est-ce que vous me suivez, chers amis? Chers amis, vous comprenez que quelquefois nous servons Dieu, mais nous avons honte de ce Dieu que nous servons, chers amis. Nous avons honte de ce Dieu que nous servons. En Martinique, celui que j'ai vu, c'était, nous étions à la Galeria, nous étions assis là dans le grand restaurant, dans le food circus de la Galeria, et puis mon ami était en face de moi. Lorsque le plat, on a pris les plateaux, nous nous sommes assis, il a simplement dit, oh Seigneur, merci pour ce repas. Et je lui ai dit, bon ok, d'accord, ben, il a dit ça, mais je ne m'occupe pas, je pensais qu'il disait ça parce que c'était beau, il y avait des couleurs, nanana. Alors là, moi, je lui dis, bon maintenant, on va prier mon frère, j'ai déjà prié. Yep. Je ne dis pas qu'il faut prier pour l'Afghanistan, le Kyrgyzstan et le Suriname, et puis toute la famille en particulier. Seigneur, je te prie pour Wilfried, après je te prie pour Michel, pour Isa, Livia. Tu sais, Seigneur, Livia, et puis finalement vous mangez après une heure, le repas est froid. Mais il est bon d'élever le nom du Seigneur avant de manger, chers amis. D'accord? Donc maintenant, on voit que nous sommes dans cette situation aujourd'hui où les gens ont honte du Seigneur. Les gens ont du mal à marcher, à fonctionner avec Dieu. Et bien souvent, ça, c'est un facteur qui fait reculer certaines personnes. Parce qu'ils se disent que moi, ils vont se moquer de moi. Une pauvre femme est morte, elle a perdu la vie, la pauvre. Elle est allée à la tombe sans avoir accepté Jésus dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle pensait à ses amis. Qu'est-ce que mes amis diront? Sur son lit de mort, lorsque son fils est venu la voir, il lui a dit, « Maman, accepte Jésus dans ta vie, j'ai envie de te revoir lorsque Jésus reviendra. » Elle a dit, mais mon fils, qu'est-ce que mes amis vont dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Donc, quelquefois, chers amis, il nous faut affronter cela, faire confiance à Dieu. Exactement comme Dieu le dit à Jérémie, fais-moi confiance. Marche à mes côtés. Prends mon joug. Marchons ensemble, travaillons ensemble. Et tu verras, je serai là. À chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Mais maintenant, on aurait pu croire que la chose est jolie. On marche avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, praise the Lord. Je suis un enfant du Seigneur. J'avance avec le Seigneur. Les choses sont jolies. Mais regardez ce que Jérémie dit ici. Jérémie dit au verset. Jérémie dit au verset 7 du chapitre 20. Tu m'as persuadé, Éternel. Et je me suis laissé persuader. Vous savez ce que Jérémie sous-entend ici? Ici, nous avons un mot très intéressant en hébreu qui encore peut être traduit par... Permettez-moi celui-là. Hein. Permettez-moi ma créolité. Couillonner. Non, je veux ma créolité. Couillonner. Seigneur, tu m'as couillonné. Et je me suis laissé couillonné par toi. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours avec ce même mot, hein, en hébreu, vous savez, comme je vous ai dit, à partir des temps, la traduction peut prendre une autre tournure. Ici, le couillonné ici implique le fait qu'un homme s'approche d'une vierge. Vierge dans le sens où la personne n'a pas vraiment de connaissance de la chose. Et que cette personne qui, elle, est déjà bien établie, va travailler cette vierge. Va la couillonner afin de prendre sa pierre. Oui, ma femme et moi, nous disons à nos enfants, à nos filles, tu as une jolie pierre. Et cette pierre, tu dois donner cette pierre à ton mari. Si tu donnes cette pierre à quelqu'un d'autre, mais cette pierre, ton mari doit le mériter. Et c'est pour ça que je prends le mot pierre ici. Donc, chers amis, La personne a déjà toute son expérience. Elle rencontre la Vierge qui a encore son esprit bien frais. Il vient, il lui raconte toute espèce de mots jolis. La petite Vierge est là, comme elle n'est pas habituée à cela, elle commence à rougir et à prendre des... jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif, chers amis. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je te lâche. Donc le mot employé ici, chers amis, implique cette idée-là derrière. Donc il est en train de dire, Seigneur, tu es venu dans mon jeune âge, lorsque je n'étais pas encore mature. Tu m'as donné de belles promesses, et ces promesses aujourd'hui, je ne les vois pas. Regarde dans quel état je suis, Seigneur. Tu m'as couillonné. Tu t'es moqué de moi, Seigneur. Pourquoi il dit ça? Il dit, je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Tu m'as couillonné. Tu m'as dit, tu seras un prophète des nations. Mais Dieu ne l'avait pas couillonné. Parce que c'est lui qui n'avait pas fait attention. Le Seigneur lui a dit, Amen. Reste à mes côtés. Je serai là pour t'arracher de la main de l'ennemi. Je serai là pour te sauver. Je serai là pour te récupérer. Je serai là, mon bien-aimé, pour toi à chaque fois que tu auras besoin de moi. Mais marche avec moi. À travers ce récit, on comprend que ce n'est pas toujours rose de marcher avec le Seigneur. Mais la chose qui doit demeurer, c'est que nous puissions rester là, à côté du Seigneur. Et Jérémie nous en donne l'exemple. Mais Jérémie va loin dans ses propos, chers amis. Jérémie va loin. Regardez le verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi. Observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Il devient l'ennemi de ce système. Au verset 14, il dit... Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. J'ai un ami pasteur qui m'a dit à travers cette phrase, un spécialiste de l'Ancien Testament, il m'a dit à travers cette phrase, on peut comprendre que Jérémie était dans un état dépressif. Jérémie, chers amis, passait par un état suicidaire. Il désirait la mort, chers amis. Maudit soit le jour où je suis né. Chers amis, c'était chaud pour ce bonhomme. Chaud. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, chers amis, c'est chaud. On prend la décision d'avancer avec le Seigneur. On se retrouve seul. C'est chaud. C'était chaud lorsque j'ai accepté le Seigneur et que j'allais dans les repas de famille. Et que tout le monde sur la table se moquait de moi. Oh, regarde-le. Il ne peut même pas prendre un petit coup avec nous. Et puis il venait, il mettait du porc, parce que vous savez que nous on ne mange pas le porc. Il mettait du porc dans des assiettes. Mais en fait, en réalité, ce plat était pour mon père. Mais mon père prenait le plat dans la cuisine et il venait, Wilfried, voici ton plat. Et tout le monde se moquait de moi. Mais je n'ai pas abandonné, chers amis. Je n'ai pas abandonné, chers amis. J'ai continué. Car ces situations peuvent vous faire passer par un état dépressif. Vous pouvez ressentir le rejet et beaucoup reculent lorsque ça arrive. Au lieu d'avancer avec le Seigneur et de voir la bénédiction, ils reculent lorsque ces moments-là arrivent. Ils font marche arrière, chers amis. Jérémie va plus loin. Regardez ce qu'ils disent encore. Ils disent que cet homme soit comme... Il dit, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Qui est venu dans le champ lui dire... qui est venu dans le temple lui dire... Hey, il dit déjà... Ton fils est né. Jérémie dit, maudit soit cet homme. La sauce est chaude sur lui, chers amis. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui le comblera de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Si vous voyez dans quel état d'esprit était ce bonhomme, chers amis. Sans miséricorde. La chose est grave, chers amis. Et on continue. Et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Mais Dieu, à aucun moment ne lui dit, ok Jérémie, laisse tomber. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'objectif de Dieu demeure. Il veut que tous nous soyons sauvés, chers amis. Il veut que tous nous soyons sauvés, chers amis. Et il sait qu'à un moment donné, Jérémie, car il a planté une graine, il a touché la bouche de ce jeune homme, devoir revenir à la raison. Mais regardez, regardez maintenant. Vous allez voir, j'ai laissé quelques versets. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de Jérémie. Regardez ce qui se passe. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Nous avons un combat au-dedans du bonhomme, chers amis. C'est ça la vie chrétienne. Un combat au-dedans du bonhomme. Un combat. J'ai envie d'abandonner, c'est trop chaud. Mais non, j'avance pour le Seigneur. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je continue à avancer pour le Seigneur. Oh non, je ne peux pas, c'est trop chaud. Mais je vais continuer à avancer pour le Seigneur. Maudit soit le jour où je suis né. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi, Seigneur? Quelquefois, dans notre marche chrétienne, nous nous retrouvons dans cette situation. D'autres ne veulent même pas emprunter cette marche. Ils sont là, ils sont avec nous dans la maison du Seigneur et ne prennent aucune décision pour le Seigneur. Parce que, chers amis, pour eux, ils n'ont pas envie de s'engager. Si je ne suis pas engagé, ouf, je suis à l'abri de quoi? Dieu nous aime tellement que même pour cela, il envoie quelqu'un, chers amis. Il n'imagine pas à quel point la vie de ceux qu'il envoie est difficile. La preuve, la mienne, John. Il n'imagine pas une seconde à quel point la vie de ceux qu'il envoie est difficile. Quel courage ils ont, chers amis, de marcher avec le Seigneur afin de prêcher cet évangile pour que tous soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en prenant le joug du Seigneur, le Seigneur va demeurer à côté d'eux et va marcher avec eux. Lorsqu'ils vont trébucher, étant donné qu'ils sont liés au Seigneur, le Seigneur va trébucher avec eux. Et il sera là pour les relever, chers amis. Lorsqu'ils vont de nouveau trébucher, le Seigneur trébuchera avec eux. Lorsqu'ils poseront le genou au sol, le genou du Seigneur sera posé au sol. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Et lorsque le Seigneur dira, ça va, tu es prêt, maintenant on se relève. Parce qu'ils sont liés. Gardez l'image de ce bœuf avec ce truc, lié à l'autre bœuf avec cette espèce de bois au milieu. Si l'un se relève, il est comme ça si l'autre ne se relève pas, chers amis. Mais comme Dieu est bon, il peut faire un geste, chers amis. Et sans même vous forcer, chers amis, vous montez avec lui. Amen. Sommes-nous en face, chers amis. Amen. Mais pour que ça se produise, il faut marcher à ses côtés. Marcher avec le Seigneur. Bien souvent, nous avons un tas de problèmes dans nos vies. Nous aimons venir voir les hommes comme le pasteur Darding, les hommes comme Wilfried Pavila. Prie pour moi. Prie pour moi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous demeurons à côté du Seigneur et que nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous serons à nos moments les plus, dans nos moments les plus bas, chers amis, Sean Darding n'aura même pas le temps d'intervenir que Dieu lui aura déjà fait le geste. Parce que nous marchons avec lui, chers amis. Nous labourons avec lui, chers amis. Nous sommes dans l'œuvre avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous devons marcher avec le Seigneur. La preuve, Dieu a relevé cet homme. Car on peut voir que, à un moment donné, chers amis, Jérémie reprend la course. Et il se retrouve jeté au fond d'un puits. Vous vous rappelez de cette histoire? Il se retrouve jeté au fond d'un puits. Mais là, lorsqu'on analyse l'histoire, on voit que Jérémie ne dit pas un mot. Oups, Jérémie a compris quelque chose à partir de ce moment-là. Jérémie ne dit pas un mot. On nous dépeint la scène que les hommes l'ont pris. Les hommes l'ont fait descendre au fond du trou. Non seulement il était déjà dans un trou noir, mais la Bible nous précise que lorsqu'il est arrivé au fond du trou, il s'est enfoncé dans de la boue. Je ne sais pas si c'est là qu'est née cette expression qui dit « Man, je suis dans la boue là » pour bien montrer qu'on est dans une situation des plus graves. Mais Jérémie était plus bas que terre, dans un trou, enfoncé dans la boue, chers amis. J'imagine Jérémie, puisque je me suis renseigné, c'est un espèce de trou qui faisait un diamètre d'un peu plus d'un mètre. Et la chose la plus intéressante, c'est que le soleil ne perçait pas trop dans ce trou-là. Il faisait noir, il y avait la boue au fond, parce qu'en fait, c'était des réserves dans lesquelles il gardait l'eau pour irriguer les cultures. Mais à un certain moment, je crois que pour l'hiver, il fallait le vider. Donc, mais au fond, il y avait toujours cette boue. C'est dans ça qu'on l'a mis. Donc, mais suivez bien l'image. Lorsqu'on fait Jérémie descendre, imaginez que j'éteigne toutes les lumières de l'église. Quel sera votre premier réflexe? J'éteins tout, partout dans le noir. Votre premier réflexe, ce sera quoi? Cherchez la lumière. N'est-ce pas? Ça ne vous est jamais arrivé? Lorsque tu étais jeune et que ta mère disait, allez, va te coucher, qu'elle éteint la lumière de la chambre. Poup, ton premier réflexe, c'est de, ouh, tu cherches un petit point de lumière. Quelque chose sur lequel tu vas t'accrocher dans ce noir total, chers amis. Et le seul coin de lumière qu'il avait était le ciel. Ses yeux étaient certainement levés vers le ciel, exactement comme par ce hublot-là, je vois le ciel. Mais il n'a pas dit un mot. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jérémie était déjà mature. Et il avait compris que parce qu'il marche avec le Seigneur, parce qu'il a pris ce joug, parce qu'ils ont décidé de marcher ensemble, il est tombé là, au fond, dans la boue. Il sait que le Seigneur est sur un côté comme cela parce qu'ils ont, ils sont liés, chers amis. Mais Dieu fait le geste. Et il l'a fait à travers cette eunuque, chers amis. Cette eunuque qui est allée se plaindre, qui a plaidé la cause de Jérémie. Et ils ont pu sortir de Jérémie dans cet état. Dieu avait dit quoi au départ au chapitre 1? Jérémie, je serai là pour t'arracher de la main de tes ennemis. Jérémie, je serai là pour te récupérer. Jérémie, je serai là pour te sauver. Une seule chose, Jérémie. Matsal, marche à mes côtés. Marche à mes côtés, Jérémie. Peu importe ce qu'ils diront, peu importe ce qu'ils feront, tu toucheras la boue. Mais moi, je vais te relever. Moi, je vais te relever. Pourquoi? Parce que tu marches avec moi. Parce que tu marches avec moi, Jérémie. Si tu ne marches pas avec moi, tu ne peux pas sortir de ce trou, encore moins de la boue, car il te faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, c'est moi qui te l'envoie. Sommes-nous en face, chers amis? Sommes-nous en face, chers amis? Ce soir, le Seigneur veut nous dire, et je termine là, tellement d'autres choses à dire, vous voyez le nombre de fiches que j'ai, mais on va s'arrêter là. S'il y avait un autre mot hébreu que je voulais voir avec vous, mais on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon pour vous là. Le Seigneur veut que nous comprenions une chose ce soir. Le Seigneur veut nous inviter à marcher avec lui. Dieu veut nous inviter à vivre cette expérience que Jérémie a vécue. Dans cette ville de Paris où rien ne va plus. Dans cette ville de Paris où règne l'insécurité. Dans cette ville de Paris où vous pouvez vous retrouver dans une situation des plus déplorables dans une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, chers amis, qui en veulent à ce gouvernement, à ce système ici. Dans cette ville de Paris, chers amis, où vous devez faire attention, observez les gens lorsque vous allez dans vos métros, dans vos bus, chers amis. Évitez certains lieux publics, évitez de vous retrouver dans des situations compromettantes, chers amis. Le Seigneur nous dit, au milieu de cette ville, je vais t'utiliser pour que tu sois une lumière sur le chantier de plus d'un. Mais sache que tu ne pourras pas cela sans moi. Pour avoir ce ministère fructueux, tu devras accepter mon joug. Qu'on soit liés ensemble tous les deux. Accepter ma domination sur toi. Marcher avec moi, côte à côte, mon bien-aimé. Et tu verras, parce que je suis fort, parce que je suis le puissant leader, et que tu es cet homme qui marche à mon côté. Crois-moi, lorsque je ferai un pas, même si tu es fatigué, ma force est suffisante pour t'aider à faire le second pas. Mais pour cela, chers amis, il faut faire comme Jérémie, maître. Sa confiance en Dieu. Car souvent, ce qui fait que nous ne faisons pas le pas avec le Seigneur, c'est parce que nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Nous pensons que nous pouvons dire à Dieu comment nous devons vivre. Mais Dieu est ferme dans ses principes. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera encore le même demain. Donc il ne changera pas ses principes pour vous. Il ne changera pas ses commandements pour vous. Sa loi ne changera pas pour vous, chers amis. Le mieux que nous ayons à faire, c'est de nous accrocher à lui. Le mieux que nous ayons à faire, chers amis, c'est de demeurer sous sa domination. Le mieux que nous ayons à faire, c'est de faire comme Jérémie. Il est bon de faire comme Jérémie et de parler à Dieu et de lui dire, « Hey Seigneur, regarde dans quel état je suis. Seigneur, des fois je pense que tu m'as couillonné. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. Hier soir encore on en rigolait, jeune, tu m'as dit, mon frère, est-ce que je sais ?» Parce qu'on parlait de quelque chose, j'ai vécu une situation difficile. Mais les autres, je ne peux pas vous parler de ça. Et je suis arrivé à un point où j'étais en colère. Et lorsque je parlais avec Dieu, je parlais avec colère. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a à peine 4 ou 5 mois. Je parlais avec colère, chers amis. Comment as-tu pu faire cette chose? Je ne t'avais rien demandé. Tu es venu me chercher. Tu m'as dit, viens. Et regarde dans quelle situation je suis. Vous voulez que je vous dise une chose? C'est là où je ne comprends pas Dieu des fois. Il m'a relevé. Puisque je marche avec lui, je suis sous son joug. Il m'a relevé. Il m'a permis d'accepter la situation. Mais le problème n'est toujours pas réglé. Chers amis, je vous dis une chose. Hier soir, on en parlait à Sean et j'ai dit à Sean, s'il y a une chose que je ne veux plus, c'est maugréer. Alors je ferme ma bouche. Parce que cette situation m'a permis de grandir. Comme cette situation a permis à Jérémie de grandir. Mais vous savez, le plus important a été quoi? C'est que comme Jérémie, à la première occasion, j'ai maugréé. Mais maintenant que je suis au fond du trou, dans la boue, ma bouche est fermée, chers amis. Parce que je sais que je marche à ses côtés. Et son plan n'est pas le mien. Moi, je me dis, mais pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça comme ça? Ce serait déjà réglé. Mais quelquefois, son plan est encore plus simple que ça. Mais parce que je suis trop pressé, cela m'empêche de voir comment il agit pour mettre les choses en place. Donc maintenant, j'ai décidé de me taire et de demeurer sous sa domination et d'avancer avec lui parce que je sais que lorsque je trébuche, lui aussi trébuche, mais il me tient la main et il me relève, chers amis. Voulez-vous vivre cette expérience avec le Seigneur? Voulez-vous vivre cette expérience avec le Seigneur? Voulez-vous vivre cette expérience avec le Seigneur? Alors pourquoi ne pas vous lever, chers amis? Alors pourquoi ne pas vous lever, chers amis? Pasteur Dording, tu peux déjà me rejoindre? Je vais vous dire une chose. Alors que mes amis vont chanter tel que je suis d'une façon très solennelle, moi je vais vous dire une chose. Peut-être que ce soir, il y a parmi vous qui sont, vous êtes dans cette salle et vous passez par cette situation difficile, très doucement, très solennellement. Vous passez par cette situation difficile où vous êtes sur le point de mettre Dieu de côté, où vous êtes sur le point de dire, ou peut-être vous êtes sur le point de faire un pas, cher jeune, et quand vous vous dites, je ne suis pas prêt, parce qu'il faut ci, il faut ça, ça n'est pas encore en place. Laissez-moi vous dire une chose. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il vaut mieux être sous la domination de Dieu que d'être sous notre propre domination. Laissez-moi vous dire une chose, ça c'est important. Il vaut mieux être sous la domination de Dieu que d'être sous notre propre domination. Notre raison va nous perdre. Parce qu'il y a une chose, c'est que le Dieu que je sers est infini. J'aime bien l'anglais parce que l'anglais dit « L'homme est finite ». Comment tu vas traduire ça, Sean? Oh, ok. Ok, d'accord, Sean, on a compris. L'homme est mortel. L'homme est limité. Mais Dieu est infini. Et nous n'avons pas compris ça. Et nous comprenons. Et pour nous, nous pensons que nous sommes limités dans notre raison. Mais nous pensons que cette raison, et c'est celle qui va raisonner Dieu. Vous allez raisonner qui? Demain, vous mourrez. Votre sagesse, chers amis, votre sagesse, c'est quoi? Devant Dieu, c'est rien. La sagesse de Dieu est infinie. Et il vous demande qu'une seule chose. Viens. Viens et accepte mon joug. Accepte ma domination dans ta vie. Accepte de marcher à mes côtés, Natsal. Accepte de marcher à mes côtés. Prends mon joug, il est léger. Et moi, je vais te permettre d'avancer et d'évoluer. Mais nous travaillerons ensemble. Parce qu'il y a d'autres qui ont besoin de comprendre cette vérité. Mais j'ai besoin de toi. Que nous travaillons ensemble afin que les autres puissent comprendre cette vérité aussi. Il y a-t-il une personne qui aimerait travailler avec le Seigneur? Laissez-moi voir vos mains. Il y a-t-il une personne qui aimerait travailler avec le Seigneur? Il y a-t-il une personne qui aimerait dire, Seigneur Jésus, j'aimerais accepter cette domination? Laissez-moi voir vos mains. Laissez-moi voir vos mains. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors qu'ils vont... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce soir, je vais faire un appel spécial. Je sais que vous n'êtes pas habitué avec ça, généralement en Europe. Mais l'appel, c'est quelque chose qui se passe entre vous et Dieu. C'est une façon de démontrer votre foi. Ce n'est rien d'extraordinaire, ou de, comme certains peuvent le penser. N'est-ce pas, pasteur? C'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, voici, regarde, je te démontre que je suis prêt à marcher avec toi. Ça se passe entre vous et Dieu. Ce soir, je vais faire un appel pour quelqu'un. On va faire deux appels. Pour quelqu'un qui n'a jamais marché avec Dieu. On peut dire que cette personne pense qu'il connaît Dieu parce qu'il sait qu'il y a un Dieu. Mais n'a jamais vraiment rien fait avec Dieu, n'a jamais pris aucune décision pour Dieu. Je m'adresse à cette personne ce soir et je lui dis, es-tu prêt ce soir à prendre cet engagement et à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi, Seigneur, à accepter ta domination dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à me courber, Père éternel, à te remettre à ta place, à rester à ma place d'homme mortel, à te laisser dans ta place de Dieu infini, afin que tu puisses dominer sur moi, dominer dans ma vie, afin que tu puisses diriger ma vie, Seigneur. Donne-moi de vivre cette expérience qu'a vécu Pavila. Donne-moi de vivre cette expérience qu'a vécu Jérémie. Des hommes qui ont trébuché, mais qui demeurent fermes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, Seigneur. Apprends-moi à te faire confiance. Il y a-t-il une personne comme cela dans cette salle ce soir? Si c'est le cas, pourquoi ne pas venir jusqu'ici pour que le pasteur puisse prier pour vous?
Tes enfants ont dit ce soir, je viens. Ils ont pris le courage, tant de père, suite à la conviction de ton esprit dans leur cœur, que le choix pour toi est le meilleur. Tant de Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de continuer à parler à tes enfants qui ont répondu à ton appel, qui ont voulu ce soir un nouveau départ dans un engagement avec toi. Ils veulent désormais marcher à tes côtés. Ô Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ que lorsqu'ils seront abattus, que tu puisses faire le geste de bouger ton épaule et les relever. Ô Père éternel, place ton esprit de paix, ton esprit de joie, ton esprit d'amour dans le cœur, amour pour toi et pour les autres, et qu'ils sachent qu'ils peuvent te faire confiance. Ô Père éternel, en ce soir, nous avons tes enfants qui sont habitués avec toi, Père. Ils sont habitués à t'écouter, à écouter ta voix, ta parole. Mais malgré ça, ton Père, il y a des compromis. Père, nous oublions parfois ta puissance, que tu es un leader puissant, que tu es capable de tirer tout seul celui qui décide de marcher avec toi. Ô Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de briser les chaînes qui lient ton peuple à ce monde, qui lient ton peuple au mal, aux choses maléfiques dans leur bouche, dans leurs esprits. Ô Père éternel, je te prie que ta domination soit sur eux. Que tu puisses leur donner la puissance de l'esprit, de leur caractère, de leurs intelligences, afin qu'ils dominent avec toi le mal qui règne dans ce monde. Père éternel, que personne ne soit découragé parce qu'elle est dans la boue. Tant de Père, que personne ne dise que c'est noir, il n'y a pas de lumière, Dieu n'est pas là, puisqu'il ne voit pas, mais qu'il se rappelle de ta promesse, de ta parole, de ton rôle, celui qui dirige, celui qui marche à ses côtés. Ô Père éternel, que ta présence se manifeste dans leur vie et qu'ils sachent que tu es toujours présent, même dans la boue avec eux. Et maintenant, ton Père, nous voulons prier pour nous tous. Ô Père, combien de fois nous avons failli dans notre relation avec toi. Ô Père, combien de fois nous avons voulu briser le joug que tu as placé autour de notre cou. Ô Père, combien de fois nous avons dit que tu es injuste, car nous n'avons pas ce que nous avons voulu. Ô Père, combien de fois nous avons volontairement péché contre toi. Combien de fois, Père, nous t'avons regardé dans les yeux en te disant, Père, je n'en veux pas de toi. Je ne veux pas de ta parole. Je ne veux pas de tes conseils. Laisse-moi prendre plaisir dans mes péchés et dans mes désirs. Ô Père, combien de fois, et malgré ça, tu cours après nous. Tu viens après nous. Tu envoies tes serviteurs et tes servantes après nous. Combien de fois tu te manifestes auprès de nous malgré notre rejet de toi. Père, nous voici. Nous sommes ton peuple. Mais nous savons que tu es le seul vrai Dieu. Nous t'avons gardé à l'œil, tant de Père. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, mais notre défaut, Père, c'est de te faire confiance, de te laisser faire dans ton temps et comme tu veux. Ô Père éternel, pardonne-nous. Reconsacre-nous, Père. Remets-nous à part une fois de plus. Place ta main puissante sur nous et mets-nous à part. Ton de Père, pour toi et pour toi seul, qu'afin que notre pas, ton de Père, n'est que le reflet de tes pas. Ô Père éternel, merci. Car nous avons compris que tu es bon, et toujours dans la volonté de nous faire du bien. Nous te faisons confiance, Père. Aide-nous dans nos faiblesses. Place ton esprit sur nous et convainc-nous du plaisir de te servir. Convainc-nous de l'amour de ta parole. Convainc-nous, Père, à t'aimer. Car c'est le meilleur choix, c'est le meilleur chemin, la vie éternelle en toi. Nous te remercions, Père. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.